Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Salut Philippe.
Salut Daniel.
Alors, tu me parles de muscle car, tu me parles de Dodge Challenger, mais on va commencer avec l'historique.
Ben, je te parle de quelque chose qui a fait rêver, je pense, tous les ticus de notre génération, toi et moi, hein, les muscle cars. Et quand on parle de muscle car, on parle, bien sûr, de ces gros bolides américains là, qui avaient de tout aussi gros V8 et qui étaient capables d'accélérer plus vite, des fois, que des GT italiennes là, pour le dixième du prix. Bon, évidemment, la comparaison s'arrêtait là parce que ça freinait pas, puis la tenue de route était un concept abstrait. Mais quand même, ces fameux muscle cars ont fait triper bien du monde. Le moins bon côté, c'est qu'ils ont souvent servi de cercueil aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais bon, Chrysler avait une très belle brochette hein, de muscle car, faut le dire. Là, les fans de mon père pourraient nous en parler en long et en large. Là. La Charger, la Challenger, la Barracuda, la Super B, la Roadrunner... tous des noms évocateurs pour ceux et celles qui sont nés dans les années 50 et 60 et qui ont grandi avec ces véhicules. Puis on associe ces modèles aussi à l'une des plus belles périodes de l'histoire, hein, tourmentée, faut bien le dire, de Chrysler. Et plusieurs d'entre eux, plusieurs de ces muscle cars valent une petite fortune aujourd'hui. Hein, dans les ventes aux enchères, là, ils se maintiennent dans les 6 chiffres. Et même, on peut atteindre les 7 chiffres là, pour les versions les plus rares. Ça s'est vu. Et plus d'une fois là, pour certaines CUDA, par exemple, et pour certaines Charger Daytona aussi. Bref, ça, c'était un excellent placement hein, parce qu'une des caractéristiques des muscle cars à l'époque était justement leur prix abordable. Alors, quand tu vends ça, après ça, dans les 6 chiffres ou dans les 7 chiffres, là, ça, c'est...
Encore faut-il que...
Sois en bon état.
C'est ça.
T'as absolument raison.
T'achètes pas cette voiture-là pour te retenir d'appuyer sur l'accélérateur.
Non, parce qu'ils ont souvent été maltraités. Et ça, c'est quand ils ont pas fini en cercueil, justement.
Et voilà.
Et là, le problème, par contre, c'est le premier choc pétrolier de 1973, qui va entraîner la disparition de cette espèce automobile. Parce que dans les années qui ont suivi, là, ils ont disparu un après l'autre. Les Camaro et Firebird ont survécu un peu plus longtemps, mais ils ont finalement disparu au tournant du 21e siècle. La Mustang est la seule qui a poursuivi sa carrière là, de façon ininterrompue, mais ça n'a pas toujours été glorieux.
Ben,
hein? Il faut le dire.
Ouais. Lorsqu'on a changé motorisation, on a eu une petite période difficile.
La Mustang 2, là, ça a fait mal. Là. Alors, la première apparition du nom Challenger dans l'univers Chrysler, ça remonte à 1959. La Silver Challenger, à l'époque, est une version spéciale de la Dodge Coronet. Alors, c'est pas un modèle à part, là, c'est vraiment le nom d'une version. Et d'ailleurs, Chrysler l'a utilisé une seule année et c'est Studebaker qui l'a ensuite repris pour la version de base de son modèle Lark.
Et
ouais, moi non plus. Ça, en toute honnêteté, là, j'ai appris ça en faisant mes recherches. Et quand Chrysler va réutiliser ce nom en 1970, c'est là que ça devient intéressant. Parce que ça va être l'âge d'or de la Challenger. Mais vous allez le voir, hein, c'est un âge d'or qui va être de courte durée. D'abord, la Challenger arrive un peu tard. Hein? 6 ans après la Mustang, 4 ans après la Camaro. Là, on parle des Pony Cars, qui est une sous-catégorie des Muscle Cars. Et avant son arrivée, avant l'arrivée de la Challenger, Chrysler avait un seul pony car, c'était la Barracuda. Et là, j'ouvre une petite parenthèse parce qu'il faut rendre à César ce qui revient à César. C'est Chrysler et non Ford qui a lancé le premier pony car. La Barracuda a été introduite 2 semaines avant la Mustang au printemps 1964. Mais l'engouement, là, le buzz autour de la Mustang a complètement relégué la Barracuda dans l'ombre.
Wow, le marketing de Ford a été très fort.
Oui, mais le modèle aussi. Hein, c'était un modèle qui était attrayant. Puis, écoute, ils ont frappé un coup de circuit avec ça. Et lorsque Chrysler se décide finalement à donner à la division Dodge une rivale pour la Mustang, on va utiliser la plateforme e-body de la Barracuda et sa mécanique. Or, en fait, là, la Challenger est une jumelle de la Barracuda, mais on a allongé son empattement de 50 mm pour la rendre un petit peu plus confortable. Et ça, Daniel, c'est exactement la même recette qu'utilise Ford. Hein? La Mercury Cougar, à l'époque, est une version un peu plus luxueuse, un peu plus confortable de la Mustang. Alors, le duo Barracuda-Challenger s'oppose donc aux Mustang et Cougar chez Ford et aux Camaro et Firebird chez General Motors, donc les fameux Pony Cars. Les Challenger ont été disponibles en décapotable seulement en 1970 et 1971, donc les deux premières années, ce qui en fait des items assez recherchés, hein, assez rares. Et si vous aimez la silhouette de la Challenger, ben sachez que c'est l'œuvre du designer Carl Cameron, à qui on doit aussi la première Dodge Charger, la 1966. Donc, pas celle qu'on peut voir dans les Dukes of Hazzard, là, celle d'avant, la toute première. Et à sa première année, la Challenger se vend très bien, hein? Près de 80 000 exemplaires qui vont être vendus, autour de, je pense que ça dépassait 77 000. Là. Et c'est probablement l'effet de la nouveauté parce que les ventes vont chuter dès l'année suivante. Et en 1973, là, on est rendu à moins de 30 000 ventes. Alors, la balloune, là, c'est vite dégonflé, il faut le dire. Là. Et il faut dire aussi que la Challenger paye le prix de son arrivée tardive dans le segment des Pony Cars parce que ses concurrentes chez Ford et GM ont eu le temps d'établir puis de fidéliser leur clientèle. Mais de toute façon, ce qui va faire le plus mal à la Challenger, comme aux autres muscle cars, c'est l'adoption de mesures anti-pollution plus sévères combinées à la première crise du pétrole de 1973 là, dont on a parlé. Alors donc, ça revient à dire que l'apogée de la Challenger, ça a duré seulement 2 ans. Parce que dès 1972, les gros moteurs, les célèbres Big Block, comme le 383, le 426 Mi, le 440 Magnum, vont tous être retirés du catalogue. Et à partir de 1972, les muscle cars commencent tous à perdre leur musculature à cause de l'antipollution. Et cette conjoncture va être fatale à la Challenger qui va terminer sa carrière dans l'indifférence générale en 1974 avec un V8 de 360 pouces cubes, 5,9 litres, qui est déjà, lui, castré par l'antipollution, environ 245 chevaux, on est loin de la puissance des Big Blocks. Hein?
Ben oui.
Puis évidemment, Daniel, on ne peut pas parler de la Challenger sans parler d'un film qui a beaucoup contribué à la rendre célèbre. Et là, je parle bien sûr de Point Limite Zéro, version française de Vanishing Point, qui est un road movie, certains diront existentiel, certains diront nihiliste, dans lequel la Challenger blanche du personnage principal, Kowalski, est la co-vedette du film. Il y en a même qui vont dire que c'est elle, la vraie vedette du film, parce qu'on se souvient tous de la Challenger blanche du film, mais qui se souvient de Barry Newman? C'est pourtant lui, l'acteur principal du film. Et je vous invite d'ailleurs à lire l'article de mon collègue Daniel Ruffiange sur ce film. J'ai mis ça sur ma page Facebook. J'ai mis ça et plusieurs photos des anciennes Challenger et des photos tirées du film, entre autres. Et ça, ben, ça m'amène à vous parler de la deuxième génération, qui est celle de la honte. Un peu comme la tristement célèbre Mustang 2 qu'on a évoquée tantôt. Hein? La Mustang 2 qui était une Pinto déguisée. Ouais. Ce que Chrysler va faire, c'est pas le diable mieux. Ils vont déterrer le nom Challenger en 1978 pour un soi-disant coupé sport qui est en fait une Mitsubishi Galant Lambda, donc une japonaise, rebaptisée Dodge Challenger en Amérique. Et là, elle a un clone chez Plymouth, mais au moins là, on s'est gardé une petite gêne et on s'est abstenu de l'appeler Barracuda. Ça aurait été vraiment le sacrilège suprême, là. Alors, elle s'appelait plutôt la Plymouth Sapporo et si ça vous dit rien, c'est normal.
Ça me dit rien.
Non, ça n'a pas laissé une grosse trace dans l'histoire, ça, ce duo-là. Et de toute façon, ce ne sont plus des muscle cars, mais des petits coupés sport japonais qui font concurrence, par exemple, à la Toyota Celica, à l'époque. Alors, les moteurs sont des 4 cylindres, 1,6 litres, 2,6 litres, et là, on commet un sacrilège. On donne le nom de Emmy au plus gros des deux. Et sa puissance, 105 chevaux, ce qui est environ le quart des moteurs Emmy de la grande époque. Ouais, c'est... assez
pas
risible.
De bon, ça.
Non, c'est effrayant.
C'est marketing. Ouais, non, c'est uniquement marketing.
Ça, là, tu sais, les années là, 75 à 85 là, dans l'industrie automobile américaine, c'est pas bien ben glorieux. Hein? Ouais. Et cette imposture, parce que c'en est une, va durer jusqu'en 1983. Le nom Challenger, ensuite, va disparaître pendant 25 ans, mais pour mieux revenir. Et ça, on s'en parle dans le prochain bloc.
Absolument, j'ai hâte. On se parle tantôt, Philippe.
Au plaisir, Daniel.
Et voilà, nous sommes de retour et c'est le temps de parler de la Dodge Challenger, l'essai de Philippe.
Ben, en fait, là, on était rendu à la résurrection. Hein?
Ah, OK.
Parce que chez Chrysler, le moratoire, si on peut appeler ça comme ça, sur les muscle cars, va durer à peu près une trentaine d'années. Mais c'est le succès fracassant de la Mustang de cinquième génération en 2005. Tu te souviens, là, avec son style néo-rétro, là, qui va forcer les deux autres constructeurs américains à réagir. Puis la nostalgie, hein, on le dira jamais assez, c'est un formidable outil de marketing et Chrysler va jouer sur cette corde en ressuscitant à son tour la Challenger pour l'année modèle 2008. Et comme Ford, avec la Mustang, Chrysler joue cette carte-là à fond avec le design en tout premier lieu. Parce que si on regarde la Challenger de face ou de profil, là, on a l'impression que ceux qui l'ont dessinée ont fait un copier-coller de la Challenger 1970.
Quelle belle idée.
Ah, c'est ouais, tout
parce
à fait.
Parce que dans les rétros, dans les styles rétro, les véhicules qui ont eu et qui ont emprunté le style rétro, je pense que c'est la mieux réussie.
Ouais, ça, c'est pas moi qui va te contredire. Vraiment pas. Vraiment, moi aussi, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur mon site philippelagu.com pour regarder les superbes photos de notre véhicule d'essai. Puis là, je me pète pas les bretelles parce que c'est pas moi qui les a pris. C'est mon partner François Prudhomme, là. Mais François, c'est un super photographe, puis je pense qu'on a fait du beau travail de ce côté-là. Donc, comme son ancêtre, la Challenger du 21e siècle est un coupé sport 3 volumes, qui est large, très large même, et assez intimidant. Hein?
Oui.
Et tendance oblige, par contre, la ceinture de caisse est plus haute. Et ça pénalise, et pas qu'un peu, hein, la visibilité arrière. Et c'est une lacune, en plus, qui est accentuée par l'énorme pilier C. Alors, autrement dit, vous êtes mieux de cocher la caméra de recul dans la liste des options ou de suivre un cours de camionnage, au choix. Par contre, on l'a dit, Daniel, hein, quelle gueule.
Ouais.
Même si je suis un fan fini de la Mustang, moi aussi, je confesse que la Challenger est ma préférée sur le plan esthétique. Et si vous avez la fibre nostalgique, comme moi, ben cette copie quasi conforme de l'original, là, celle qui nous a fait fantasmer dans Point Limite Zéro, va vous chercher aux tripes, c'est sûr. Alors, si c'est ta préférée, Daniel, je peux te dire que c'est la mienne aussi.
Parfait.
Et le voyage dans le temps, ben ça se poursuit hein, quand on s'installe à bord, parce qu'on ouvre des énormes portes hein, et très lourdes. Là, on a vraiment l'impression d'être en 1970. Puis à l'intérieur, c'est vraiment large. Hein? La planche de bord, là, c'est massif. Et même le volant, surtout les premières générations, là, quand c'est revenu en 2008, là, ils l'ont mis un petit peu plus petit depuis 2015, là, mais c'était énorme. L'ergonomie, par contre, ça a longtemps été un concept abstrait à Détroit. Et là, on peut dire qu'on est en phase avec notre époque, hein, parce que les commandes sont très bien disposées, ouais, sont faciles à utiliser avec leurs gros boutons. Dieu merci, on n'a pas mis des commandes tactiles.
C'est pas le véhicule pour non plus.
Non, puis tant mieux, si on a résisté, tant mieux. Puis une bonne main d'applaudissements aussi pour le système d'infodivertissement Uconnect. Hein. Moi, ouais, ça demeure mon préféré. Toute marque confondu. C'est vraiment le plus convivial et le techno-idiot que je suis l'apprécie pleinement. Je sais pas si tu l'aimes autant que moi, là, mais moi, là, quand j'ai un véhicule avec le Uconnect, là, c'est le bonheur total.
Wow, j'adore ce système.
Tellement simple.
Ben oui, c'est simple.
Voilà. Et la finition, puis la qualité de construction, ça aussi, c'est une agréable surprise. Parce que là, tellement qu'on se demande si c'est le même constructeur qui, il n'y a pas si longtemps, nous a donné les Calibre, Sebring, Cirrus et autres modèles mémorables à la qualité, disons, douteuse. Hein? Surtout pour l'habitacle.
T'as oublié la P.T. Cruiser.
Ah, et tant d'autres. La P.T. Cruiser, au moins, c'était beau en dedans. Fait que, plan esthétique, il y avait une recherche. Là. Mais ouais, c'est vrai que les plastiques, là, c'était pas la grande qualité. À l'avant, les gros sièges baquets, parce que tout est format géant dans l'habitacle, ont aussi une allure rétro. Hein, quand on regarde des photos, là, pas sûr. Sauf qu'ils procurent un excellent support, tant latéral que lombaire. Et ça aussi, c'est nouveau, ça n'existait pas à l'époque. Et chose rare, la banquette arrière est très confortable, avec des sièges qui sont bien sculptés, qui sont presque des baquets, eux aussi. Ce qui est ridicule, par contre, c'est le dégagement pour la tête et les jambes. Je dis ridicule parce que la Challenger, c'est la plus grosse des trois muscle cars américains. Elle aurait facilement pu être, et même elle aurait dû être, la plus spacieuse. Or, c'est pas du tout le cas. Puis ça passe difficilement là, pour un véhicule de ce grosseur-là. Là. Heureusement, le coffre arrière, lui, est conforme aux dimensions du véhicule. Là. Il y a autant d'espace que dans le coffre d'une grosse berline. Côté mécanique, ben, on propose le V6 Pentastar, qui est utilisé à toutes les sauces chez Chrysler. Il faut dire que c'est un moteur qui est très polyvalent. Hein. Moi, j'irais jusqu'à dire que c'est un des meilleurs de l'histoire de ce constructeur. Rien de moins.
Rien de moins et rien. Aucune technologie d'accrocher après ce moteur-là.
Non, plus.
Tout à fait conventionnel et il fait le travail.
Ben, encore une fois, chez Chrysler, quand on fait les choses simples, ça marche. Ça donne des très, très bons résultats. On parlait du U-Connect tantôt, mais c'est vrai pour la mécanique aussi. Et ce V6 de 3,6 litres offre toujours un bon rendement, toujours satisfaisant, peu importe là, qu'il soit sous le capot d'une berline, d'un VUS ou d'une camionnette. Là, notez que la traction intégrale fait désormais partie du menu, mais elle est réservée exclusivement à la version GT à moteur V6 et boîte automatique. On pourrait dire que c'est la version soft rock de la Challenger. Mais quand même, hein, malgré le poids de la bête, là, les 305 chevaux du V6, ça suffit amplement à la tâche. Mais bon, pour les montées d'adrénaline, là, il faut aller du côté des V8. Puis on le sait, Daniel, hein, le son du moteur d'une sportive, ça, c'est aussi important que celui du guitariste dans un groupe rock. Puis dans le cas des muscle cars, ben là, on parle de gros rock pesant. La Challenger verse autant dans le rock que dans le hard rock avec ses V8 émis de 5,7 et 6,4 litres, puissance respective de ces deux moteurs, 375 et 485 chevaux. Mais là, c'est pas tout. Parce qu'il y a aussi du heavy metal et ses variantes les plus extrêmes. Parce que là, on tombe dans le délire quand on parle des versions L4 et Demon. L4, on parle de 707 chevaux et la Demon, ça va de 800 à 840 chevaux. Ça, c'est des chiffres complètement surréalistes qui viennent de leur V8 de 6,2 litres là, qui est suralimenté.
La Demon, c'est un dragster.
Ouais, littéralement.
C'est un véhicule d'accélération qui a été banni d'ailleurs, qui n'était même pas arrivé sur... qui n'était même pas disponible dans les concessionnaires encore, qui a été banni de certaines courses de dragster parce que, évidemment, la puissance était là et tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé au niveau des directions des courses, mais on l'avait déjà banni de certaines courses. Alors, on voit à quel point c'est rendu démesuré pour ce véhicule. 840 chevaux.
Ah, ben ça, c'est une des voitures de série les plus puissantes à l'heure actuelle. C'est quand même pas rien, à part les supercars là, puis les hypercars là, qui valent 2 puis 3 millions là, de Ferrari.
La nouvelle Corvette ZR1, c'est 755 chevaux.
Oui. Alors, c'est moins...
Là, on parle de 840.
Oui, ça commence...
C'est de la démesure.
Sauf qu'au moins, la Corvette ZR1, on peut aller sur la route avec. Là. C'est pas juste fait pour les pistes d'accélération. Toi, le L4...
Et même la L4, que je me suis amusé avec la L4...
Oui, parce que moi, je ne l'ai pas conduit.
Piste de course avec Jacques Bienvenu. C'est un monstre épouvantable. C'est un monstre épouvantable. Il faut faire attention avec cette voiture-là. Il faut prendre le temps de bien dompter la bête et d'y aller de façon graduelle. Sinon, tu te ramasses dans le mur instantané. Là. C'est d'une puissance incroyable. Alors, si on veut se péter bretelles, si on veut avoir du son, tu as parlé du son tout à l'heure.
Ouais.
C'est incroyable le son de la L4. Je passerais un après-midi complet juste à laisser virer le moteur dans la cour pour entendre le son de ce véhicule-là. C'est démesuré. C'est démesuré comme performance. C'est sûr que la voiture, c'est lourd. On le sent. On le ressent également. Mais en ligne droite, en puissance, pour l'adrénaline, c'est incroyable.
Ça doit être une catapulte, effectivement. Mais moi, bon, je me contenterais du V8 392, là, le 6,4 litres.
C'est, à mon avis, la voiture à acheter.
Oui, c'est celle-là que j'ai pu conduire l'été dernier. Et moteur qui émet aussi, lui aussi, a une belle sonorité, là, bien ronde, moins gutturale que celle des Mustang, entre autres. Et moi, les V8 MI m'impressionnent beaucoup, notamment par leur souplesse. C'est vraiment des superbes moteurs, là. Plus raffinés puis moins sauvages que ceux de leurs ancêtres, et tout en étant aussi puissants puis aussi généreux en couple. Alors, c'est vraiment des moteurs magnifiques. La boîte manuelle ajoute à la saveur rétro, hein, parce qu'elle demande un certain effort, surtout pour la jambe gauche. Oui, l'embrayage, là, vous l'aurez compris, c'est très ferme, hein. Dans un bouchon de circulation, là, vous allez souffrir. Oublie pas que je reste à Montréal, moi. Pas que je reste, mais que je travaille à Montréal. Puis, tu sais, Daniel, à mon âge vénérable, ben, écoute, j'opterais pour la boîte automatique. Mais je dois quand même confesser que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer du levier, là, quand je l'ai essayé cet été. C'est juste qu'en vieillissant, ben, on a moins le goût de faire ça à tous les jours, tout simplement. Et les moteurs amis vont aussi vous aider à accumuler beaucoup de points avec les pétrolières. Hein? Si vous avez des cartes de points, là, le AMI, ça peut être bon parce que même si les données du constructeur promettent une consommation moyenne de 13,9 litres au 100 km, moi, j'ai difficilement réussi. En fait, j'ai pas réussi à descendre sous la barre des 15 litres. Ma consommation moyenne de ma semaine d'essai, ça a été 15 litres exactement au 100 km, photo à l'appui. Et ça, je tiens à le préciser, en respectant la vitesse tolérée sur nos routes. Ah, évidemment, il y en a qui vont dire que ces véhicules-là sont un anachronisme, ce qui est tout à fait vrai, et c'est pour ça qu'on les aime. Moi, en tout cas, je ne veux pas vivre dans un monde où il y aurait juste des Prius sur la route. Je ne suis pas encore rendu là, et en toute honnêteté, je doute d'y arriver un jour. Le format et le poids, ben ça, à mon avis, ça constitue les deux plus sérieux handicaps de la Challenger. Tu en as parlé tantôt du poids, Daniel. Imagine, la Challenger du 21e siècle est plus lourde que l'original. Et ça, je pense qu'on a, un petit peu manqué. C'est là qu'on a raté le coche là, chez Chrysler, parce que là, on aurait pu faire au moins une Challenger justement au goût du jour, puis la mettre un petit peu dans la sécheuse. Là, t'sais. Faut dire qu'elle repose sur le châssis de la Chrysler 300, mais on a justement l'impression de conduire une version deux portes de la 300. Puis on aurait vraiment pu, tu sais, même si tu prends le même châssis, t'es pas obligé de faire ça aussi gros pour aussi pesant. Là, ça se modifie, ça. Et sur une route de campagne, la largeur excessive de la Challenger, là, c'est vraiment un handicap, là. Parce que quand on rencontre, là, à chaque fois, là, c'est toujours un peu épeurant. Hein? C'est comme une loterie. On va s'accrocher ou pas? Ça va-tu passer? T'es jamais sûr.
Ben, c'est dans l'esprit des muscle cars. C'est davantage à l'aise en ligne droite que dans une courbe.
Oui, mais c'est parce que, justement, grâce à des réglages de suspension qui sont plus sportifs, puis grâce aux pneus qu'on a là-dessus, les versions RT puis SRT, la tenue de route, c'est quand même impressionnant. Oh, oui, pour une si grosse voiture, là, ça défie les lois de la physique. Là. Alors si, en plus, il l'avait juste allégé un petit peu, hein, ça aurait été là formidable.
Question de budget.
Ah, sans doute, oui, chez Chrysler, ça se peut bien, ça, t'as bien raison. Mais bon, quand même, faut le dire, hein, c'est la plus confortable du trio des muscle cars américains et celui ou celle qui achète une Challenger pour frimer, là, tu sais, ou juste pour se rappeler le bon vieux temps, ben, il va être comblé par la douceur de roulement de ce gros coupé dont le châssis, ne l'oublions pas, on disait que c'était le châssis de la Chrysler 300, mais faut pas oublier que c'est un châssis qui est d'origine Mercedes. Oui, c'est vrai, c'est une plateforme qui commence à dater, mais des restants d'un grand restaurant, c'est toujours mieux que des restants de McDo. Hein? Voilà. Alors, bref, je sais pas ce que tu en penses, Daniel, mais moi, je trouve que dans ce monde de plus en plus aseptisé qui est le nôtre, la Challenger est tout sauf politiquement correcte, et moi, c'est pour ça que je l'aime. Et en bonne rebelle, en plus, elle est charismatique, elle est magnétique, on finit toujours par y pardonner ses travers. Si je devais choisir personnellement un des trois muscle cars pour traverser les États-Unis d'est en ouest, là, ça serait probablement elle, en raison de son confort de roulement et du ronronnement de son V8. Un petit peu comme Kowalski dans Point Limite Zéro. Et toi, Daniel, voilà. C'est-tu ta préférée des muscle cars?
Elle est proche. Oui, j'aime le style. C'est sûr que le style, c'est la préférée. Ah, j'aimerais mieux pas avoir à choisir.
Ah ouais, ça est douloureux, hein?
J'aimerais mieux pas avoir à choisir. Merci beaucoup, Philippe.
Ça a été un plaisir.